Europe 1.
L'esprit est le contraire de l'argent.
Tous les jours sur Europe 1.
Moins on en a, plus on est satisfait. Voltaire.
Historiquement vôtre.
Après tout, c'est tant mieux.
Et Van Gogh, c'est pas une famille d'artistes.
The successor to the kings and queens of history.
Là, Seigneur Colomb, c'est là précisément que nos opinions divergent.
Stéphane Bern.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Clémentine, Jean-Luc, David.
Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Heureux de vous retrouver.
Il faut dire le nom de famille.
Oui, c'est vrai. Les gens pensent que ça fait partie du prénom. Et celui qui est aussi avec nous, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour David, bonjour Stéphane, bonjour Jean-Luc. Et bonjour Clémentine.
Mais
bonjour
Olivier Pouls. Vous êtes devenu d'une courtoisie. Je ne vous reconnais plus. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans la raconter en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont tout de même un point commun. Aujourd'hui,
c'est le tango du bistouri.
Et oui, cher Fernandel, le bistouri est à l'honneur aujourd'hui. On réunit des rois du bistouri, c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. À commencer par celui qui lui a donné son nom et a surtout su l'utiliser, le barbier chirurgien, oui, Ambroise Paré, qui a opéré aussi bien les soldats que les rois. Puis Charles-François Tassy, qui lui a opéré un roi aussi, le roi Soleil, de la plus fâcheuse et la plus pernicieuse de toutes les incommodités, entre guillemets, une fistule, un acte de chirurgie dont il a retiré gloire et fortune, vous verrez. Et après les morts qui ont sauvé les vies, le vivant qui en a anéanti, c'est vous Jean-Luc Lemoine qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, un roi du bistouri lui aussi, mais c'est lui qui le dit.
Oui, moi j'ai toujours la personne valorisante dans la série. Moi c'est Michel Mort, c'est autoproclamé roi du bistouri. C'est un peu comme si vous Stéphane, vous vous autoproclamiez roi du hula-hoop.
Oui. Et encore avec un peu d'exercice, je pourrais y arriver.
Oui, et je pense que vous seriez plus crédible que lui de l'été. Un roi du bistouri qui a fait de la chirurgie, beaucoup de ratés, de la prison, une fuite aussi. Bref, une folle histoire que je vous raconte tout à l'heure.
Et eux sont les reines et les rois de la chronique. C'est pas eux qui le disent, c'est moi. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Alors,
Clémentine.
Oui, bien, sachez pour votre édification que la fistule anale n'a pas été l'opération la plus répandue depuis la nuit des temps. Non, c'est un autre organe qui est la principale victime des bistouris, à votre
avis.
C'est
le nez.
Exactement.
Les gens se font refaire le nez.
Je vais rendre un hommage appuyé au nez.
Ah, le nez de Cléopâtre.
Bah, tous les nez.
Tous les nez.
Oui.
Les nez.
Oui. Le nez en général.
La chirurgie esthétique.
Non, mais on parle du nez de Cléopâtre.
Oui. Bien
si
sûr.
Le nez de Cléopâtre
bien
avait
sûr.
Été plus court,
exactement,
la face du monde en eût été changée.
Ce sera ma conclusion.
Le spoil.
On a gagné une minute
à notre
chronique. Super.
Alors, lui remonte aux origines à l'objet d'une mode, d'une passion, d'une obsession, souvent la sienne. C'est David Cassel-Lopez.
Oui, j'essaie, vous savez, souvent de rendre des sujets, bon, pas forcément intéressants au premier abord, intéressants. Là, c'était vraiment une gageure parce qu'il s'agit de l'éponge. Voilà.
Ah, oui.
Je vais vous raconter l'histoire de l'éponge.
Oh, c'est
voilà.
Passionnant.
Ah, c'est passionnant.
Bien sûr,
oui,
bien sûr.
C'est depuis que vous vivez dans un aquarium.
Exactement.
Vous vous intéressez à ce qui se passe sous les fonds, dans les fonds marins.
Tout à fait. Et je vais, j'ai des trucs à dire sur l'éponge.
Oui. Ouais. Les origines et dans toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre.
Mes aïeux, quelle époque,
ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte dans les années 1840 et on parle forcément cuisine avec vous,
ouais.
Olivier Pouls, c'est même cantine.
Je préfère manger à la cantine.
Merci Carlos.
Je vais convoquer sans doute quelques souvenirs chez vous. Vous me raconterez vos souvenirs de cantine, ce qu'on vous forçait à manger ou pas. Et vous verrez que finalement, ben vous serez peut-être quand même bien content d'avoir mangé ce que vous avez mangé. Parce que ça n'a pas toujours été le cas.
Ouais.
Ah, très bien.
Petit Suisse et
mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure vers 17h40.
Et pour être totalement complet, n'oublions pas évidemment Burn to be Alive, cette séquence que les autres radios nous enverraient, si elles nous écoutaient. Un quiz sans pitié qui oppose d'un côté Clémentine Portier-Kaltenbach, lauréate du prix du Guesclin, mais aussi du prix Agrippa d'Aubigné et du prix Inter-Rhône. Et de l'autre côté, Stéphane Bern, animateur télé.
Évidemment, je suis le challenger.
Oh là là, oui.
Là, vous avez tant
enfin,
de prix.
Oui, n'est-ce pas, oui. Surtout des prix majeurs hein, que le monde entier nous envie.
Oui, ben, c'est bien. Pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Au XVIe siècle, il fut le premier à appliquer au domaine chirurgical le terme bistouri, issu du mot italien pistorino, devenu lui-même bistorino, et qui désignait une petite dague fabriquée à Pistoia. Simple barbier devenu le chirurgien de quatre rois de France, il est considéré aujourd'hui comme le père de la chirurgie moderne. Je vous raconte maintenant Ambroise Paré. Nous sommes à l'automne 1537, de l'autre côté de la frontière qui sépare le royaume de France du Saint-Empire romain germanique. La rivalité tenace qui oppose alors François Ier à l'empereur Charles Quint a mené les troupes du roi de France dans le Piémont. Au cours de cette huitième guerre d'Italie, les deux puissances se disputent sans relâche le nord-ouest de la botte, et plus particulièrement le duché de Milan. La guerre fait rage et les armes à feu qui ont fait récemment irruption sur les champs de bataille infligent aux soldats des blessures terribles que les médecins savent encore mal soigner. Fort heureusement pour les hommes de François Ier, il se trouve parmi eux un jeune barbier passionné de chirurgie, un barbier chirurgien comme on les nomme à l'époque. Son nom, Ambroise Paré. Il a 27 ans environ et a été recruté par le duc de Montjean, colonel général d'infanterie, pour accompagner et rassurer son armée. Eh bien, il y en a pris, car si, à ses débuts sur le front, Ambroise Paré s'occupe des soldats touchés par des tirs d'arquebuse ou de pistolet, en suivant consciencieusement les recommandations erronées des médecins, une découverte va bientôt l'inciter à s'en écarter. Les pontes de la très éminente faculté de médecine, dont les uniques références antiques ne prévoient naturellement aucun traitement contre les armes à feu, pensent alors que la poudre à canon empoisonne les blessés par balles. Pour empêcher qu'elle ne se répande dans le corps, il préconise donc, une fois le projectile extrait de la plaie, de brûler les tissus touchés avec de l'huile de sureau bouillante. Un supplice pour les soldats qui ne disposent au mieux que de quelques gorgées d'alcool comme anesthésiant. Mais un jour de l'année 1537, alors qu'on a amené à Ambroise Paré d'énièmes soldats à soigner, il découvre qu'il ne lui reste plus une goutte d'huile de sureau. Bien qu'inquiet, le barbier chirurgien opte pour un plan B. À défaut d'huile bouillante, il applique sur les plaies des blessés un pansement froid imprégné d'un mélange de jaune d'œuf, de térébenthine et d'huile de rose. Ne reste plus qu'à prier pour que la mort ne vienne pas les faucher, pense-t-il avec désespoir. Mais quelques heures plus tard, alors qu'il croyait les retrouver agonisants, oh, surprise! Les soldats, comme leurs cicatrices, se portent infiniment mieux qu'après le traitement habituel à l'huile bouillante. Alors, l'obstiné et talentueux Ambroise Paré se le jure. Plus jamais, il n'utilisera cette technique barbare pour soigner les blessés de guerre. Qu'importe l'avis des médecins de la faculté qui ne puisent leur savoir que dans les traductions latines des livres de Galien. Paré, lui, il s'en remet à l'expérience et la sienne vient de démontrer que la poudre à canon n'empoisonne pas. Son bon sens et sa véritable compassion pour les blessés l'incitent à s'informer auprès de tous. Il écoute les autres praticiens comme ce chirurgien italien qui lui transmet sa recette miracle de Baumène dite aux petits chiens pour apaiser les plaies. Mais aussi les pauvres gens qu'il croise sur sa route comme cette paysanne qui lui suggère d'utiliser des oignons crus pour soigner les brûlures. Si bien qu'à son retour d'Italie, les états de service du chirurgien militaire sont déjà impressionnants. En plus de ses premières victoires sur les champs de bataille, Ambroise Paré a le mérite d'avoir fait ses armes à l'Hôtel Dieu, hôpital parisien prestigieux et pluriséculaire, où il s'est fait remarquer dès ses 23 ans pour sa parfaite maîtrise de la lancette. C'est le nom qu'on donnait à la lame utilisée pour inciser les malades avant qu'Ambroise Paré lui-même ne la renomme bistouri en 1564 dans ses 10 livres de la chirurgie, l'un de ses nombreux ouvrages médicaux en français. Le modeste barbier originaire de Beaugersan, près de Laval, gravit ainsi peu à peu les échelons. Et s'il a rapidement été amené à opérer des malades et disséquer des cadavres davantage qu'à tailler des barbes, c'est parce qu'au XVIe siècle, seuls les rasoirs des barbiers permettent d'inciser la peau. Sur ordre des médecins qui rechignent à se salir les mains, ils percent donc des abcès ou pratiquent des saignées. Même s'ils ne parlent pas le latin, les membres de la corporation peuvent également assister à des cours à la faculté de médecine, ce qu'a évidemment fait Ambroise Paré avant d'entamer sa carrière militaire, puis de passer à 30 ans son examen de maître barbier chirurgien devant le jury de la confrérie de Saint-Côme qui certifie les barbiers chirurgiens. Son diplôme en poche, il achète une boutique où exercer à Paris et épouse Jeanne Mazelin qui lui donnera 4 enfants. Leur vie commune de 32 ans sera entrecoupée de plusieurs sièges et campagnes militaires et d'autant d'exploits médicaux. C'est au cours du siège de Boulogne en 1544 qu'Ambroise Paré signe son fait d'armes le plus légendaire, celui de retirer à François de Guise une lance qui lui traversait le crâne du haut de l'œil droit à l'arrière de l'oreille gauche avec des tenailles de maréchal ferrant. L'année suivante, encouragé par le professeur d'anatomie Sylvius de son vrai nom Jacques Dubois, il publie le tout premier traité scientifique rédigé en français et le premier dédié aux blessures par armes à feu qu'il intitule « Méthode de traiter les plaies faites par les arquebutes et autres bâtons à feu ». Oui, tout simplement dit en vieux François. C'est grâce à de telles prouesses qu'en 1552, à l'âge de 42 ans, l'humble barbier devient chirurgien du roi Henri II. Ambroise Paré a peut-être gagné les faveurs du monarque en passant maître dans l'art de l'amputation. Car en 1552, lorsque l'armée royale cherche à reconquérir les évêchés de Metz, Toul et Verdun dans l'est de la France, le barbier chirurgien est encore de la partie. Et lors du siège de Damvillers, il réalise un autre coup de maître resté dans les annales de la médecine en ligaturant les vaisseaux sanguins d'un gentilhomme amputé de la jambe plutôt qu'en cautérisant la plaie au fer rouge. Jamais à court d'idées, toujours désireux de faciliter le rétablissement des infirmes, Ambroise Paré imagine pour ses mutilés de guerre différents types de prothèses. Il va même jusqu'à concevoir certains modèles pour les riches et d'autres plus accessibles pour les moins fortunés. Lui, qui sera aussi chirurgien ordinaire de François II, le fils aîné d'Henri II et de Catherine de Médicis, puis premier chirurgien de son frère Charles IX, puis encore celui d'Henri III, ne fait pas de distinction de rang ou de confession lorsqu'il opère. Officiellement reconnu chirurgien de robe longue à 44 ans par la très élitiste confrérie des chirurgiens de Saint-Côme, Maître Paré affirme soigner de la même manière les princes et les gueux. Qu'il soit appelé au chevet d'Henri II après son accident fatal lors d'un tournoi en 1559 ou auprès des victimes des guerres de religion entamées 3 ans plus tard. Soupçonné lui-même d'être protestant, il est aussi en première ligne la nuit de la Saint-Barthélemy. À 62 ans, il opère ce 24 août 1572 l'amiral de Coligny, chef huguenot blessé dans un attentat avant que le roi Charles IX ne le fasse finalement exécuter avec tous les autres chefs de l'église réformée, provoquant le massacre que l'on connaît. L'année suivante, Ambroise Paré, qui a perdu sa première épouse, se remarie une seconde fois. La vie du chirurgien sera suffisamment longue pour lui offrir une nouvelle famille et surtout le temps d'écrire. Accouchement, fracture de la tête, maladie, instruments opératoires, avant de s'éteindre en décembre 1590, à l'âge de 80 ans, Ambroise Paré aura signé des dizaines de traités et de discours sur des sujets variés qui influencent encore la médecine moderne, à ce qu'il paraît.
Europe 1, je n'en sais rien. Vôtre.
On va le vérifier. Mais oui, on est là pour ça.
Pour continuer à parler d'Ambroise Paré avec Clémentine Portier-Kaltenbach, à mes côtés, nous avons le plaisir d'accueillir un ancien chirurgien et un auteur qui le connaissent bien. Bonjour Jean-Noël Fabiani et bonjour Pierre Boisserie.
Bonjour. Bonjour.
Merci à tous les deux. Pierre Boisserie, vous êtes scénariste de bande dessinée, vous signez les textes de la BD Ambroise Paré, le père de la chirurgie qui paraît aujourd'hui même aux arènes. Qu'est-ce qui vous a convaincu de raconter l'histoire incroyable de ce barbier devenu chirurgien des rois ?
Eh bien, en fait, c'est la lecture d'une biographie romancée d'Ambroise Paré qui m'a décidé parce que, en fait, j'avais pas vraiment apprécié la lecture de ce livre qui était trop romancé, ne resituait pas suffisamment l'homme dans son époque et dans l'état de la médecine de l'époque. Donc, je me suis dit, ça serait vraiment bien de faire quelque chose autour de ce personnage pour le resituer dans son environnement et vraiment mettre l'accent sur ses découvertes par rapport aux connaissances de l'époque.
Oui, on a vraiment le sentiment que vous êtes replongé sur l'histoire de la médecine il y a 5 siècles. On revit les ventouses, les saignées, les dissection. Vous y avez pris du plaisir ?
Alors, moi, j'ai pris du plaisir à les écrire, surtout en pensant que le dessinateur allait devoir mettre ça en image. Il n'a pas toujours rigolé. À chaque fois que je lui envoyais du script, il me disait « je dois vraiment dessiner ça ». Je lui dis « oui, effectivement ». Et puis surtout, nous avions les références de Jean-Noël Fabiani, qui était assez exigeant pour que ce soit vraiment parfaitement crédible. Et donc, on s'est vraiment replongé sur tout ce qui existait à l'époque, les ventouses, les clistères, etc.
Jean-Noël Fabiani, justement, vous êtes professeur d'histoire de la médecine à la faculté de médecine Paris-Cité et ancien chef du département de chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou. Vous avez participé à l'écriture de cette BD sur Ambroise Paré. Ambroise Paré était au départ barbier chirurgien, comme je l'ai rappelé. À quand remonte exactement cette profession tout à fait étrange, puisque c'était les seuls qui avaient le droit d'inciser la peau?
Eh bien, écoutez, c'est très simple. C'est l'Église. L'Église, en 1215, au cours d'un concile, décide que les clercs n'ont plus le droit de faire aucune activité par le fer et par le feu. C'est-à-dire que la chirurgie de l'époque, c'est obligatoirement le fer et le feu. Donc on interdit à tous ceux qui en fait étaient déjà les médecins chirurgiens, c'est-à-dire les clercs, les prêtres, de faire de la chirurgie. Alors bien entendu, les barbiers, qui sont les seuls à avoir des instruments qui coupent, se précipitent dans la brèche et prennent en quelque sorte à l'assaut le métier de chirurgien. C'est pour ça que pendant des siècles, les chirurgiens seront les barbiers.
Clémentine ?
Mais qu'est-ce que ça donne quand on opère avant Ambroise Paré ? Ça doit relever plutôt de la boucherie, non ? À vos yeux ?
Ce sont des gestes relativement simples que font tous ces chirurgiens, barbiers chirurgiens. Ils font des incisions pour faire des saignées. C'est qu'une incision au niveau du bras. Ils incisent des abcès. Bon, on fait toujours comme ça, hein. On fait une amputation. Je peux vous dire qu'une amputation, elle est faite encore aujourd'hui, comme la faisait Ambroise Paré, bien entendu, sans cautère, hein. Quoique le bistouri électrique, qu'est-ce que c'est? Sinon une forme, certes sophistiquée, du cautère. Donc, les chirurgiens opèrent toujours, aujourd'hui, par le fer et par le feu.
Le bistouri, justement, parlons-en. C'est Ambroise Paré qui lui donne son nom, un nom qui vient de l'italien. Et visiblement, comme je l'ai rappelé, c'est en Italie qu'il a fait le plus de découvertes.
Bien sûr, d'abord parce qu'il était confronté à une société qui était en avance sur la société française. En particulier avec la grande faculté de Padoue, quelqu'un comme Vésale qu'il va rencontrer et qui va être une révolution pour lui. Alors pourquoi le mot pistorino ? Eh bien c'est très simple, parce que Ambroise Paré écrit en français et non pas en latin. Donc il trouve que le mot lancette en français, il n'a pas de traduction évidente pour faire un mot scientifique, et c'est là qu'il va piquer, entre guillemets, le mot italien de la dague, qui lui semble un petit peu plus prestigieux. Et c'est pour ça qu'il invente un mot, parce qu'il écrit en français et non pas en latin.
Et cet instrument, le bistouri, est-ce qu'une fois que lui l'a non pas mis au point, mais l'a adopté et l'utilise, est-ce qu'il a contribué à ce qu'il soit diffusé auprès des médecins de son pays?
Non, parce que la lancette, finalement, c'est le même instrument. Autrement dit, on faisait des incisions avec une lancette. Le tout, c'est d'avoir un instrument qui coupe bien, avec un fil qui est sans arrêt aiguisé, en quelque sorte, par les petits apprentis barbiers, pour que ça soit une incision parfaite de la peau. Parce que la peau, c'est très dur à couper. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très dur à couper. Ah oui, oui, oui. Et donc, il faut des instruments que seuls avaient à l'époque les barbiers, parce que il y avait des petits barbiers tous les jours qui aiguisaient en permanence les lames.
On sent à la découverte d'Ambroise Paré, Jean-Luc Fabiani, et de son pansement pour les plaies des soldats, que la chirurgie, comme la médecine d'ailleurs, sont avant tout des sciences empiriques et non simplement théoriques. Dans la BD d'ailleurs, on voit le jeune barbier dire qu'il faut disséquer des corps conservés à l'Hôtel Dieu pour comprendre l'anatomie du corps humain. C'était complètement nouveau, cette approche à l'époque.
L'anatomie est totalement inconnue. Oui. Avant, personne ne connaît. Celui qui, entre guillemets, invente l'anatomie, c'est Vésale. Le fameux Vésale qu'il va rencontrer à Padoue. Et ce Vésale, c'est lui qui décrit l'anatomie. Avant Vésale, personne ne sait, en dehors du fait que le foie est à droite et la rate à gauche, personne ne connaît l'anatomie. Et d'ailleurs, on vit sur des idées qui s'appellent la théorie des humeurs, où on pense que les humeurs du corps sont responsables de toutes les maladies, ce qui n'a strictement aucun intérêt sur le plan médical, mais qui prétend expliquer quelque chose. Mais pour cette théorie des humeurs, qui date d'Hippocrate, eh bien, on n'a strictement aucun besoin d'anatomie. Donc, on a vécu, la médecine a vécu jusqu'au XVIe siècle sans anatomie. Mmh. Et c'est l'époque d'Ambroise Paré, c'est l'époque de la Renaissance qui fait découvrir l'anatomie.
Et du coup, comment des Vessales et des Parés qui contredisent des Galiens, des Hippocrates, sont-ils perçus par leur père ?
Ah bah très très mal au départ, hein. Surtout comme l'a rappelé Jean-Noël, que Paré était juste nul en latin. Donc déjà, il se permettait de parler de médecine et d'écrire des livres en français, ce qui heurtait au plus haut point la faculté. Il a dû forcer un peu la porte pour imposer sa vision et imposer le fait que tout ce qu'avait raconté Galien, c'était quand même pas terrible pour appliquer ça au quotidien dans la médecine. Et ça a été très très dur pour lui, le parcours. Comme en plus, il avait probablement un caractère de cochon, mais qui lui a permis de persévérer et de s'imposer. La preuve, c'est que encore aujourd'hui, c'est son nom qui reste et pas le nom des autres. Il a dû lutter quand même toute sa vie.
Il est passé de barbier à chirurgien de plusieurs rois. Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres ? Est-ce que il maniait le bistouri mieux que les autres, en plus de toutes ces découvertes qu'il avait faites ?
Oui, bah certainement. Il a été repéré très jeune, justement par sa dextérité technique hors pair, et qui lui a permis justement de s'affirmer en permanence. Et je crois qu'en plus, c'était doublé d'une curiosité permanente, et surtout de soulager ses patients, d'apporter quelque chose, de réconforter, quels que soient ses patients, comme vous l'avez rappelé, que ce soit des gueux ou des rois, il se comportait de la même manière, et il voulait avant tout pas prouver qu'il était quelqu'un d'extraordinaire, mais il voulait avant tout soigner les gens et leur apporter un meilleur être.
Oui, il y a deux choses qui restent de d'Ambroise Paré, c'est sa volonté de faire cesser les souffrances des gens qu'il soignait, et d'autre part de soigner tout le monde de la même façon qu'il fût roi ou gueux. Et justement, il a rétabli d'une certaine manière ce fameux serment d'Hippocrate qui avait été, on peut dire, pendant des siècles un peu oublié par les médecins.
Alors tout à fait, c'est vrai que il a ce côté, mais est-ce que ça n'est pas en partie de la légende ? Soyons clairs tout de même. Ah. Ambroise Paré, il est tellement français, il est arrogant, il est râleur. Donc puis en plus le fait qu'on ait fait cette image, je soigne les gueux, mes gueux comme des rois. Ben il y a du Voltaire, il y a du Rousseau, il y a quelque chose qui fait que obligatoirement les Français se l'accaparent, Ambroise Paré. On le met au fronton de nos hôpitaux. Pourquoi ? Ben parce qu'il est tellement français qu'il ne peut parler qu'en français. Eh bien, justement, c'est ça qui fait son caractère vraiment accepté par tous. Et c'est ça qui a fait Ambroise Paré.
Mais vous pensez qu'il y a une part de légende ?
Bien sûr, mais bien sûr. Mais il faut des légendes pour une profession.
Mais pourquoi ? Dans la réalité, il était...
C'est difficile de savoir, quand même.
Il préférait soigner les rois, quand même.
Non, je crois vraiment qu'il soignait vraiment les soldats. C'est un chirurgien militaire. Mais, n'oubliez pas que Bonaparte, sur un autre chirurgien militaire, qui était Larrey, il disait, vous valez une division. Ben, je pense que le duc de Montjean, il devait dire, tu vaux bien, une division, ça n'existait pas à l'époque, mais tu vaux bien un régiment. Parce que, les soldats avaient confiance. Et ils savaient que s'ils étaient blessés, ben, il y aurait quelqu'un qui allait s'occuper d'eux. Mm-hmm. Donc ça, c'est le propre du chirurgien militaire.
Oui. Oui, donc d'abord chirurgien militaire, ensuite chirurgien des rois. Clémentine posait une question hors micro, mais on va peut-être... Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on aurait sauvé Henri II ?
Je ne pense pas, parce que la lance avait atteint le cerveau.
Oui.
Donc on ne l'aurait pas sauvé. Je ne pense pas. Ou alors dans des conditions particulières. Je suis pas neurochirurgien.
Il aurait eu les légumes.
Oui, il y aurait eu des très grosses séquelles, incontestablement. Et pourtant, ils avaient fait venir non seulement Ambroise Paré, mais Vésale, qu'on appelle le chirurgien de l'empereur. Donc, il était venu aussi en consultation. Ah, oui. Et ils avaient percé la tête d'un certain nombre de condamnés à mort pour voir si on pouvait récupérer, justement, cette lésion.
Ça ne se fait plus aujourd'hui.
Un dernier mot à tous les deux. Quel est le plus grand héritage d'Ambroise Paré ? C'est le bistouri ?
Non. Pour moi, le plus grand héritage, c'est la ligature des artères. C'est le fait qu'on ne cautérise plus une artère, mais qu'on la lie. Il l'a pas inventé non plus, ça. Parce qu'il y a des tas de chirurgiens avant lui qui l'avaient fait. Quand on regarde, évidemment, ils étaient pas tous idiots, quand même, les chirurgiens avant Ambroise Paré. Quand ils voyaient une artère qui saignait, les gars, ils ont mis des ficelles pour empêcher qu'elle saigne. Mais Ambroise Paré, il a fait mieux parce que, comme il avait pas de ficelles sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré les crins de la queue du cheval de l'ambulance. Et il a fait son nœud avec des crins. Oui, mais on appelle toujours le fil des chirurgiens d'écrin.
Ah oui!
Merci beaucoup Jean-Noël Fabiani et Pierre Boisserie d'être revenus avec nous sur le destin hors norme de ce jeune barbier devenu chirurgien des rois et père de la chirurgie moderne. Je rappelle la BD que vous lui dédiez, dont vous co-signez les textes, Ambroise Paré, le père de la chirurgie, aux éditions Arène. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz. À suivre.
Absolument, et encore une fois, je vous propose un indice musical.
Et j'entends siffler le train.
On va parler ferroviaire. Des résistants qui faisaient sauter les trains. De Rio Bravo. De quoi on pourrait parler?
Non, on va parler de train, mais de train aux États-Unis. Donc, pour l'entendre siffler, il faut avoir des bonnes oreilles. Je sais que c'est votre cas. Donc, ça sera rendez-vous tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu le pourquoi de tout ça.
J'ai hâte.
Ça se voit, Stéphane. J'ai senti un enthousiasme.
Non, mais je suis enthousiaste. Je pensais encore que j'allais prendre une déculottée sur ces questions. Oh,
je pense que tout le monde le sait, Stéphane.
Vous êtes injuste, il m'arrive de gagner. Allez, on va, avant cet affrontement, je vais laisser la parole à Clémentine Portier-Kettenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Aujourd'hui, Clémentine, vous rendez hommage à celui qui reste la victime des bistouris. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est le nez.
Bah oui, un peu de compassion pour le nez. Car le nez, depuis la nuit des temps, n'a cessé de souffrir des lois et règlements judiciaires. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains, pour ne pas dire les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains, coupaient les nez des femmes adultères. Et le bon docteur Cabanès, vous savez, ce médecin au 19e a écrit tant de bouquins sur les grands mots, les petits mots des grands hommes, eh bien, il nous rappelle que les musulmans, pendant longtemps, les sarrasins, on aurait dit plutôt peut-être même à l'époque, on coupait le nez des chrétiens et après les avoir salés pour qu'ils se conservassent, les envoyaient par boisseau. Qu'est-ce que c'est qu'un boisseau, hein? Ça signe la référence historique très juste. Un boisseau, c'est dans les 13 kilos. Donc on salait les nez coupés aux chrétiens, on les mettait dans une espèce de tonneau de 13 kilos et on envoyait tout ça au sultan. Ils envoyaient, on a bien bossé. Couper le nez des voleurs, c'est une chose extrêmement classique dans l'Occident médiéval. C'est la première chose, le nez, les oreilles, puis ensuite on vous crève les yeux. Bon, on raconte aussi qu'en Angleterre, de nombreuses femmes et filles se coupaient le nez pour se rendre repoussantes aux yeux des Danois. Des Danois, pour faire plus simple, les Vikings, naturellement.
Oui, parce que sinon...
Mais comment on cotérisait, c'est ça qui m'inquiète.
Eh ben oui, parce que ça devait faire une sacrée hémorragie, le nez coupé. Hein. Bah écoutez, peut-être qu'on faisait comme Ambroise Paré avant la ligature. On mettait peut-être une pommade ou on contorisait peut-être au fer rouge. Hein. En tout cas, ça devait faire très très mal. Hein. Le nez, selon une expression extrêmement jolie, le nez, l'idiot du visage. Oui, mais on n'en finirait pas d'énumérer les expressions, les qualificatifs qui lui sont liés. Pour les expressions, évidemment, avoir le nez fin, fourrer son nez partout, se laisser mener par le bout du nez, ne pas voir plus loin que le bout de son nez, avoir le nez creux, et pour les qualificatifs, un nez droit, court, busqué, épaté, tombant, camard, camus, ça on le dirait moins, plat, bourbonien, retroussé, rond, pointu, fendu, en trompette, et même en pied de marmite ou crochu, le nez crochu, le nez aquilin. C'est le nez droit, court et busqué, épaté et tombant.
Hein. C'est Cyrano de Kettenbach.
Non mais ça vient d'où? C'est le nez bourbonien. Vous savez, ce nez aquilin. Qu'est-ce que c'est qu'aquilin? Aquilin, ça vient du latin aquilinus, comme l'aigle. Aquila, c'est l'aigle. Ce nez-là que Platon nommait le nez royal. Et ça, Stéphane, c'est ça par cœur. C'est le nez caractéristique des Bourbons, le nez aquilin. On prétend que le nez Bourbon, il s'est transmis sur 8 générations. Et que depuis Henri IV, parfois, le nez Bourbon, tout d'un coup, il ressort aussi. Alors, messieurs, il y a quand même un truc qui est super classique sur le nez. Qu'est-ce qu'on dit que avoir un grand nez, enfin il y aurait en tout cas un lien entre nez et sexualité. La taille du nez reflèterait chez l'homme la taille des organes génitaux. Vous savez ça, hein?
Oui, on n'a jamais entendu parler.
Oui, bien sûr. Stéphane,
c'est ce qu'on dit.
Dites pas que vous avez
un très joli nez, Stéphane.
Qui avait un grand nez parmi les grands personnages de notre histoire? Virgile, Ovide,
François Ier.
François Ier, exactement. Et il est François Ier avait un roi assez épais et long, ce qui lui valut le surnom de roi grand nez. Hein. Par contre, il y a des hommes célèbres qui avaient des tout petits nez, comme Mozart, Alexandre Dumas, Franklin Roosevelt. Shakespeare avait un grand nez. Bon, alors, qu'est-ce que ça
Louis
veut dire
avait
ça...
un nez épouvantable.
Ah oui, c'est vrai.
Un nez
ah,
d'aigle.
Il avait le nez bourbon,
ah,
Louis
oui,
XIV, vraiment.
Oui. Ouais.
Bon, enfin,
je l'ai pas connu personnellement.
Oui, non, mais sur
oui,
les
parce que,
non, mais
quand on vous entend comme ça, on a l'impression que vous l'avez côtoyé.
Non, mais Jean-Luc, à force de voir des portraits et bien ensuite sûr. Quand on voit sous le Second Empire apparaître la photo, on se rend compte qu'il y a très peu d'écart entre des portraits réalisés par des peintres et la photo. Et donc on peut se fier aux portraits. Donc si Stéphane dit qu'il a vu Louis XIV avec un grand nez, c'est que Louis XIV avait un grand nez. Alors, je suis tombée parce que j'étais là, j'étais tout émoustillée par mon histoire de corrélation entre le pouvoir sexuel masculin et la taille du nez. Et je suis quand même allée regarder dans le livre des records. J'ai trouvé l'homme qui a eu le plus long nez du monde. Il s'appelait Thomas Veders, alias Thomas Wadhous. Et malheureusement, c'était un Anglais. C'est quand même un peu vexant. Il est né en Angleterre, dans le Yorkshire, vers 1730. Il était artiste dans divers spectacles parce qu'il a bien compris qu'il pouvait vivre de son nez. Alors, à votre avis, combien mesurait son nez? Qu'est-ce que vous diriez? Petit quiz.
Oh, 15 centimètres.
Allez, 20.
C'est Jean-Luc qui remporte ce quiz. Le nez de cet homme faisait en effet 20 centimètres. Wow. Alors, je vous invite...
Comment il mangeait?
Il devait manger par-dessous, si vous voulez. Il mangeait abrité, hein, il pouvait pleuvoir dessus.
C'est extraordinaire, ah oui, ce nez. Dirait, 20 centimètres, je vous invite à aller vous regarder sur Internet Thomas Wadhous. C'est très spectaculaire. C'est très laid.
Il est obligé de passer par-dessous.
Et si vraiment c'est en rapport avec ses parties génitales, c'est très impressionnant.
Alors là, tout à fait. Ça devait être un monsieur intéressant qui a dû avoir une descendante importante. Alors, pour finir, deux, trois petites citations sur le nez. Cette jolie citation de Marcel Proust. Le nez est généralement l'organe où s'étale le plus souvent la bêtise. Et celle-ci de Tristan Bernard, elle avait un si grand nez que lorsque on l'embrassait sur les deux joues, on aurait plus vite fait de passer par derrière. Et c'est Stéphane qui, en exergue de cette chronique, a évidemment cité la citation la plus célèbre, mais qui dit tout sur le nez, celle de Pascal à propos du nez de Cléopâtre. Oui, parfois, la grande histoire tient à des détails, et en effet, le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, cela aurait changé la face du monde.
Merci beaucoup Clémentine. Et maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien parce que c'est Jean-Luc qui prend la main. C'est le quiz Bern to be alive.
Ah, exactement. Enfin, vous contrôlez quand même les réponses que vous allez donner à mes questions. Hein?
Non, non. En fait, c'est sur pilotage automatique.
Ah oui? Ça se voit pas du tout. On peut parfois se demander si c'est pas le hasard qui guide votre réflexion.
Ah bah, je l'ai dit. Ah
oui, je sais. Bah, quoi qu'il en soit, jouons et que le meilleur gagne ou le plus chanceux. Une question pour vous, Stéphane. On ne le sait pas, mais vous, Stéphane, vous le savez, quand on a dit « il faut rendre à César ce qui est à César », on parlait de l'empereur Tibère. On appelait ce genre de citation en latin un cognomen, à savoir un surnom qu'on donne à quelqu'un en souvenir d'une action d'éclat. Est-ce vrai? Ou un cognomen, c'est complètement autre chose?
C'est complètement autre chose.
Oui, parce qu'en plus, cette histoire-là, il faut rendre à César, c'est lié à la Bible. Et César ne règne pas sous Ponce Pilate. Oui. Ça sent le truc complètement fabricoté.
Je
hein.
dirais que c'est autre chose, un cognomen.
Bon, écoutez, je vais même pas essayer de vous convaincre. Vous avez l'air sûr de vous, et je respecte ça. On écoute la réponse.
Vous savez...
Non,
perdu.
C'était ça le piège, Stéphane.
C'est que c'est...
Non, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, si vous voulez. C'est que le cognomen, oui, c'est quelque... on le voit bien dans cette expression, que ça permet à rebours, on dit il faut rendre à César en disant c'est une expression biblique, c'est pas possible, puisque c'est pas César qui règne à l'époque de l'histoire du Christ.
Alors, écoutons
C'est comme une rétroacronymie.
En tout cas, moi je prends une leçon de politique, parce que là, elle vient de dire tout son contraire en deux minutes.
Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas
mais
vrai.
Si, si.
C'est
donc,
pas vrai. Moi, je sentais le truc fabricoté avec du vrai, du faux.
C'est bien un surnom qu'on donne à quelqu'un en souvenir d'une action d'éclat, et on a surnommé certains empereurs romains César quand ils avaient été valeureux et conquérants.
C'est ça qui nous a induit en erreur.
Exactement. Une question pour vous, Clémentine. Aux États-Unis, entre 1853 et 1921, des trains réservés aux Blancs étaient utilisés pour des déménagements, soucieux de ne pas se faire remplacer. Ainsi,
quoi?
Je vous explique. C'est plus de 250 000 Blancs qui furent volontairement déplacés pour ne pas abandonner certaines régions aux personnes de couleur. Est-ce vrai ou faux d'après vous?
Non, alors refaites-le-me-le. On a organisé des déplacements de population blanche.
Par des trains.
Par en des train. Trains.
Entre 1853 et 1921.
Pour coloniser certaines régions des États-Unis où il y avait. Mais oui, bien sûr, oui. Oui, c'est tout à fait probable. Moi, je crois volontiers. Bah, écoutez, je pense que ça aurait de...
Encore une fois, vous êtes sûr de vous, donc je n'insiste
d'accord,
pas. On écoute la réponse.
Ça doit être faux.
Vous avez
perdu.
Non, c'est complètement faux. Tout était inventé.
Pourtant, il y a un cognomène célèbre sur cette histoire, si je puis me permettre.
Non, il y avait eu 250 000 individus.
C'est bien clémentée parce qu'elle dit des choses fausses, mais avec un aplomb.
Mais c'est ça.
Fait que on la croit.
On a envie de la suivre. Oui. Donc, il y avait eu 250 000 individus déplacés par train entre 1853 et 1921 aux USA. Mais c'était le Orphan Train Movement. C'était des orphelins, des enfants pauvres qui ont été déplacés pour leur offrir une meilleure vie. Souci. Beaucoup d'enfants ont été adoptés pour travailler dans les champs et beaucoup furent maltraités. Mmh. Donc ça, c'est pas une joyeuse histoire. Mmh. Est-ce qu'il va y avoir un point de marqué aujourd'hui? On va le vérifier tout de suite avec Stéphane. 1827. Un homme politique et écrivain suisse du nom de Rodolf Töpfer invente et produit ce qui peut être considéré comme la première BD moderne du monde. Goethe l'a lu. Voici ma question. Est-ce que Goethe l'a aimé ou pas?
Goethe avait l'esprit très ouvert.
Il aimait beaucoup la bande dessinée.
Il adorait
dessinée.
La BD.
Bien sûr.
Qu'est-ce que je vous dise?
Je connais Goethe.
Bereit zu spät, durch Nacht und Wind, ist der Vater mit seinem Kind.
Voilà, c'est déjà beaucoup. Oui, hein. Alors, c'est un Suisse. On nous dit que c'est un Suisse qui écrit une BD.
Oui.
Et que, alors, qu'est-ce que c'est?
En 1827.
1827, est-ce que ça peut concerner...
Déjà, Goethe est mort quand?
Est-ce que moi je l'aurais vu mourir dans les années 1830, non, Goethe? Il l'a lu, est-ce qu'il était un vieux monsieur quand il l'a lu, la BD?
Il était mourant.
Ce n'est pas la question, c'est pas vous qui posez les questions, madame.
Oui, mais par des détails, on peut peut-être arriver à la
vérité. Il est mort en quelle année, Goethe?
Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je suis humoriste, je ne suis pas historien, ça suffit maintenant. Ok, d'accord, il est mort en 1832.
Okay. Ah, j'avais dit 1830,
Eh bien, Goethe a
si ça peut vous, si ça peut vous aider, c'était le 22 mars 1832.
Il a écrit une lettre. Il disait « J'aime beaucoup la BD de Monsieur Töpfer. Je trouve qu'il a beaucoup de talent et je... »
En fait, Goethe, c'était Karl Lagerfeld. Oui, d'accord.
Qu'est-ce que vous voulez? Comment... C'est oui ou non?
Écoutez, faites-vous confiance.
J'ai beaucoup aimé la BD de Monsieur Töpfer.
Merci, Monsieur Goethe. On vérifie quand même.
Vous avez... gagné.
Bon, c'est facile, on a eu un témoignage en direct de Goethe. Il a aimé, il l'a même encensé. Voilà, il décrit cette œuvre comme éblouissante de verve et d'esprit. Rodolphe produit de courtes histoires en estampes. C'était révolutionnaire pour l'époque. T'as une suite de petites estampes.
Eh ben, tout ça pour en arriver là. Ma foi.
C'est la première fois qu'on a Goethe dans l'émission. Alors, s'il vous plaît. On va rester dans la BD pour vous, Clémentine.
Ah, voilà.
L'expression « ça va barder » est d'une origine lointaine car elle est directement liée... aux bardes, les fameux poètes celtiques qui doivent leur renommée aux albums d'Astérix. Vrai ou faux?
Non, pas du tout, non.
Non.
Non, ça vient du barde.
La barde, c'est plein de choses. La barde, c'est aussi le gras avec lequel je fais mes terrines de foie de volaille. Non, non.
Ça, c'est pas dans l'histoire.
Je dis non.
Je
réponds non à cette question.
Ok, on vérifie ça.
Vous avez gagné!
Oui, c'est moins ancien. Ça vient de la fin du 19e siècle. Dans l'armée, un bar était une civière. Bardé représentait une corvée pénible, comme pouvait être le fait de porter un blessé sur une civière. Vous êtes à égalité, il va falloir faire... la question.
La question chiffrée.
La question chiffrée, qui va être le plus près? 1905. Aux États-Unis, il y avait déjà un championnat de football américain. Il y avait déjà une ligue.
Ah oui.
Mais les normes de sécurité et les précautions prises étaient quasi inexistantes. Roosevelt a même failli interdire le sport. Il faut dire qu'il y avait eu pas mal d'accidents. Et combien de décès, d'ailleurs, cette année-là?
7.
Je dirais 10.
Et le vainqueur du jour est Stéphane Bern.
Wow, c'est fastoche hein, quand il y a le premier qui donne son estimation extrêmement pertinente.
Mais non, ça aurait pu être moins, parce que c'est beaucoup plus. C'est 19 morts en 1905, juste à cause du championnat de football américain.
Le 19
sport a...
morts
19 morts. Le sport a donc été profondément aménagé en prenant des mesures de sécurité. En plus des 19 morts, il y avait 168 blessés graves.
Ah oui.
Ah oui, c'est un sport, faut être vraiment très motivé. Voilà, en tout cas, c'est une victoire de Stéphane Bern.
Bonjour, merci. Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez, Olivier Pouls et nos rois du bistouri. Après Ambroise Paré, le chirurgien qui a utilisé le mot en premier sur tout l'objet, je vous raconte Charles-François Tassy, le chirurgien qui a opéré le roi Soleil avec un drôle de bistouri lui aussi. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un roi du bistouri. En tout cas, c'est lui qui le dit, qui se présente comme tel.
Oui, il le dit, mais non, il l'est pas. Hein. Et ce ne sont pas ses patients victimes de ces actes de chirurgie esthétique totalement foirés qui me contrediront. Je vous raconte un médecin radié et même emprisonné, Michel Mort.
C'est un nom qui laisse présager.
C'est pas très engageant. Fatal, oui. C'est pas très engageant.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il a opéré le roi Soleil d'un mal fâcheux et en a retiré gloire et fortune. Pour cette opération délicate, il a dû imaginer un bistouri très spécial. Je vous raconte les prouesses royales du premier chirurgien de Louis XIV qui démontra d'une main de maître l'importance et la grandeur de sa discipline, Charles-François-Félix de Tassy. Un drôle de réveil pour un monarque absolu que celui que vit Louis XIV le 18 novembre 1686. Nous sommes à Versailles, il est 8h du matin, et dans la chambre du roi, au premier étage du magnifique palais qui n'a pas encore fini de bâtir, à l'emplacement de l'ancien relais de chasse de son père Louis XIII, Louis XIV a réuni dans le plus grand secret quelques membres privilégiés de son entourage. Sa chère Madame de Maintenon, qu'il a épousée 3 ans plus tôt, est auprès de lui. Le marquis de Louvois, son ministre le plus influent, est également présent. Il y a également le premier médecin du roi, Antoine d'Aquin, ainsi que le médecin ordinaire, Guy Cressanfagon. Et surtout, le souverain a fait venir son premier chirurgien, Charles-François Tassy, assisté pour l'occasion de M. Bessières. Sans oublier bien sûr le père Lachaise, son confesseur, car l'affaire est de la plus haute importance. Depuis près d'un an, le glorieux roi Soleil souffre de l'arrière-train. Et après des mois de traitements aussi divers qu'inutiles, il a finalement décidé de se faire opérer. Pour connaître le déroulé précis des événements depuis que le mal est apparu, il suffit de se référer à la prise de notes exhaustive d'Antoine d'Aquin. À la suite d'Antoine Valot, et comme le fera Fagon après lui, le premier médecin de Louis XIV consigne consciencieusement le moindre trouble physique du monarque dans son journal de santé, avec des détails donnés au jour le jour et à l'heure près. Or, dès le début de l'année 1686, d'Aquin écrit que le roi se trouve confronté à, je le cite, « la plus fâcheuse et la plus pernicieuse de toutes les incommodités ». Au 15 janvier, précise-t-il, Sa Majesté se plaignit d'une petite tumeur de vers le périnée. Pendant des mois, les médecins de Louis XIV ont essayé par tous les moyens de se débarrasser de cette grosseur devenue rapidement gênante et menaçante, allant parfois jusqu'à obliger le roi à garder le lit et l'empêchant de monter à cheval ou de chasser à sa guise. Patiemment, Louis XIV subit l'application de cataplasmes, de suppuratifs, de pierres à cautère sur l'abcès ouvert, ou encore les lavements, les bouillons purgatifs, l'injection d'eau vulnéraire ou phagédénique, et bien d'autres remèdes souvent douloureux et inexorablement vains. À cette époque, en effet, la chirurgie souffre encore de mauvaise réputation. Comme au siècle dernier, les médecins de la faculté surpassent en prestige les membres de la corporation des barbiers qui manient le bistouri. Pourtant, voilà, le roi de France lui-même doit se rendre à l'évidence. Aucune de leurs prescriptions savantes n'a su venir à bout de sa fistule anale. Le seul qui va y parvenir, et avec l'art et la manière, se nomme Charles-François-Félix de Tassy. À 51 ans, il n'est pas le premier chirurgien du roi par hasard. Il a succédé dans cette charge à son père, François-Félix de Tassy, décédé 10 ans plus tôt. C'est lui qui lui a transmis sa passion et ses connaissances du métier. Mais ce n'est pas uniquement grâce à son nom que Félix, comme on l'appelle parfois simplement, devient prévôt de la communauté des chirurgiens de Saint-Côme, puis chef de la chirurgie du royaume. Sa place, il la doit avant tout au sérieux et à l'habileté dont il a fait preuve au cours de sa formation dans les hôpitaux de Paris et des armées. Après avoir obtenu le titre de maître chirurgien, Charles-François Tassy, comme on l'appelle aussi, a construit seul sa renommée par son talent à soigner les plus grands seigneurs de la cour. Malgré son expérience, cependant, jamais le chirurgien n'a été mis à l'épreuve autant que pour la grande opération qu'il s'apprête à conduire. La fistule, profondément installée dans le fondement de Louis XIV, l'a même obligé à innover. Pour la traiter, il a conçu un bistouri spécial dont la lame recourbée à la royale, dit-on depuis, a été prolongée d'une sonde incurvée elle aussi. Introduite le long de la fistule à l'aide d'un écarteur non moins impressionnant, elle devrait permettre de l'ouvrir et de la retirer définitivement des organes infectés. Pas question évidemment d'éprouver ce nouvel instrument sur la personne du roi. Avant de s'attaquer à la tumeur qui ronge les intestins de Louis XIV, Charles-François Tassy a pris la précaution de s'exercer sur pas moins de 75 fistuleux des hôpitaux de Paris et de Versailles. Le voici maintenant prêt. Bistouri à la main, il se tient aux côtés du monarque de droit divin, placé sur le bord de son lit. Louis XIV n'est pas anesthésié, naturellement. Cette révolution médicale n'a pas encore vu le jour. Alors, pendant que le chirurgien fait son œuvre, il ne peut que se montrer stoïque et digne, soutenant la douleur avec, je cite Antoine d'Aquin, « toute la constance possible ». Le roi supporte si bien l'opération qu'elle perturbe à peine l'organisation de sa journée millimétrée. Son lever officiel n'est que légèrement retardé et le convalescent insiste même pour tenir conseil depuis son lit. Une heure après l'intervention réalisée par Charles-François Tassy, le monarque est saigné du bras, puis surveillé de près. Quelques semaines plus tard, au début du mois de janvier 1687, il est complètement remis. Enfin, on a su le délivrer de sa fistule. Et ce n'est pas à la médecine savante que Louis XIV doit sa guérison, mais à la chirurgie. Dans les mois qui suivent, le succès de l'opération se fait retentissant. Charles-François Tassy est décoré, anobli et richement récompensé. Et plus personne à la cour ne craint désormais d'affirmer qu'il souffre du même mal que Sa Majesté. Tous veulent se faire opérer de la même manière que l'a été le roi et certains courtisans, dit-on, vont jusqu'à réclamer un traitement identique sans avoir de fistule. Une mode incongrue, virant parfois à l'hystérie, qui aura néanmoins le mérite de faire considérablement avancer la pratique médicale. En élevant le rang de son premier chirurgien, c'est à la chirurgie que Louis XIV octroie ses lettres de noblesse. La discipline jouit d'un crédit inédit, qui augmente encore lorsque Charles-François Tassy guérit le souverain d'un anthrax de la nuque en 1696. Après avoir prodigué les meilleurs soins à son patient royal jusqu'à la fin, le premier chirurgien de Louis XIV meurt le 21 mai 1703 à l'âge de 68 ans, c'est-à-dire avant Louis XIV. 28 ans plus tard, le rayonnement de ses brillantes interventions incite Louis XV à autoriser la création d'une société académique chirurgicale qu'il renomme l'Académie royale de chirurgie en 1748. La place de la chirurgie dans le monde de la médecine est définitivement acquise.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Charles-François Tassy, nous avons le plaisir d'accueillir un historien qui le connaît bien. Bonjour Stanis Pérez.
Bonjour Stéphane Bern.
Déjà, pouvez-vous nous éclairer sur le contexte médical à l'époque du règne de Louis XIV? Quelles sont les principales découvertes et les méthodes qui sont appliquées à l'époque?
Alors, le XVIIe siècle est marqué par un certain nombre de révolutions dans l'ordre de la médecine, notamment avec la découverte de la circulation sanguine, avec des débats autour des remèdes chimiques, c'est-à-dire de l'utilisation de substances, notamment minérales, pour essayer de soigner des populations qui, jusqu'à présent, étaient essentiellement soignées par des saignées et des lavements. Donc on a en fait un contexte à la fois de très grand conservatisme médical, parce qu'on continue à utiliser les textes de l'Antiquité, mais on s'aperçoit que, eh bien, en opérant, en disséquant, en observant plus finement l'anatomie du corps, on est obligé de transformer un certain nombre de dogmes médicaux, de les réviser, de les transformer. Et puis, tout ceci va contribuer à une meilleure connaissance du corps et à de meilleures interventions, à la fois médicales et chirurgicales.
Ce qui est impressionnant quand on parle de l'opération de la fistule anale du roi Louis XIV, c'est que le roi a autour de lui toute une armada de médecins. Oui. Médecins du roi, médecins ordinaires. Comment au fond tout cela s'organise et quel est le rôle de chacun?
Alors, c'est très particulier parce que, on va dire, le roi, il a une sorte de clinique privée autour de lui. clinique privée, j'entends par là, c'est ce qu'on appelle la maison médicale du roi. Ce sont des médecins qui vont se succéder, on dit par quartier, par trimestre en fait. Et ces médecins et chirurgiens, alors qui ont des spécialités. On a par exemple un chirurgien spécialisé dans les opérations, on va dire d'ophtalmologie, même si a priori Louis XIV n'en a pas subi. On a un chirurgien spécialiste de la pierre, c'est-à-dire des coliques néphrétiques. Bon, Louis XIV, a priori, n'en a pas eu. Mais voilà, il a à disposition une sorte de petite clinique particulière avec des médecins et des chirurgiens, en fait, qui payent pour obtenir ce poste prestigieux. Ils payent d'ailleurs assez cher. Et ensuite, comme ils vivent à la cour et ils sont dans l'entourage du roi, on va dire qu'ils se remboursent à la fois par le prestige personnel et puis par une clientèle qui trouve que ça fait bien d'être soigné par un médecin ou un chirurgien ordinaire du roi. Parce que, voilà, c'est... comment dire, on peut toujours s'en vanter ensuite dans les conversations.
Jean-Luc
Non mais d'ailleurs, l'un de ces médecins consigne scrupuleusement tous les mots et problèmes de santé du roi dans un journal. Est-ce que vous avez pu consulter ce journal et qu'est-ce qu'il nous raconte sur la santé du monarque?
Ah ben ce journal, j'allais dire, je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que c'est un manuscrit qui est à la Bibliothèque Nationale, qui a été tenu par les trois principaux médecins successifs de Louis XIV. Tout ça commence au milieu des années 1640, où Louis XIV est un enfant, et puis on a un médecin qui s'appelle Antoine Valot qui a l'idée géniale de consigner en fait tous les petits ou grands bobos du roi et d'expliquer comment il les a soignés. Alors c'est un texte qui est long, parfois un peu fastidieux au niveau des descriptions parce que on donne quand même tous les détails de la vie intime du roi, en tout cas de sa vie médicale ou sanitaire, y compris quand il a des problèmes de digestion. On a des descriptions très très explicites, on va dire des effets. Voilà, mais je m'en tiens. Là.
Cela dit, quand on lit le journal de Jean Hérouard, qui était sur Louis XIII, c'est au jour le jour, c'est-à-dire c'est avec des détails d'une
On n'a pas envie de tout savoir,
en fait. Non, voilà, c'est assez pénible, en fait. Mais à l'époque où Charles-François Tassy devient le premier chirurgien, la chirurgie n'a pas encore acquis toutes ses lettres de noblesse. Pourtant, on l'a vu, nous, au début de l'émission, Ambroise Paré, plus d'un siècle auparavant, avait permis un essor pour cette discipline. Comment est-ce que vous expliquez que la chirurgie peine à s'imposer dans le paysage médical français?
Je dirais que c'est relativement simple. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'échecs, tellement d'infections, de surinfections à l'issue des opérations, tellement de douleurs. On maîtrise quasiment pas du tout l'anesthésie. Alors, on sait, grâce à l'utilisation d'opium, qu'on peut soulager plus ou moins la douleur, mais tout ceci est quand même très, très expérimental. La chirurgie, c'est quand même une sorte d'artisanat encore. Et je le dis pas de façon péjorative, mais à l'époque, on considère que le chirurgien, c'est quelqu'un qui achève en réalité les malades, et que si vous ne mourrez pas de votre propre tumeur ou d'une blessure, c'est le chirurgien qui va venir vous achever avec ces instruments terribles que l'on peut voir dans un certain nombre de musées, notamment le musée d'histoire de la médecine à Paris. On voit des scies pour l'amputation, on voit des forêts pour trépaner les crânes des personnes qui ont des traumatismes crâniens, des commotions. C'est effroyable. Moi, j'avoue que, je vais vous faire l'histoire de la médecine, ça me fait peur quand je vois ces instruments. Et les gens de l'époque avaient tout autant peur.
Olivier.
Oui, comme Stéphane l'a rappelé, Charles-François Tassy est pourtant considéré comme un éminent chirurgien. Mais à l'époque, évidemment, il n'y a pas de formation universitaire comme aujourd'hui. Donc, comment s'est-il formé sur le tas?
Mais oui, parce que, il est fils d'un chirurgien royal. Donc ça se transmet en plus de père en fils. Voilà, et on est bien dans cette logique, encore une fois, de l'artisanat. C'est un artisanat savant. Voilà, je pense qu'il faut voir les choses comme ça.
Et les artisans ont besoin d'outils. Lui, il a besoin de ce fameux bistouri à la royale qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est un bistouri qu'il crée. Et comment en a-t-il eu l'idée?
Moi, je crois que c'est un petit mystère. Mais j'ai quand même une hypothèse. Le bistouri à la royale, on l'a en fait, c'est celui qui a été utilisé pour l'opération de Louis XIV, il a été conservé, et en fait c'est un instrument qui ressemble, pour aller vite et pour illustrer la chose, une sorte de canif, un petit canif recourbé, mais avec une particularité, c'est qu'il a une sorte de long fil d'acier. Ce fil d'acier, en fait, il était destiné à opérer une section on va dire, rapide, si possible, la moins douloureuse possible. Pourquoi ? Parce que c'est un peu le principe du fil à couper le beurre. Ça devait être rapide, et je pense qu'en réalité, cette innovation était liée à, sans doute, une demande expresse du roi, qui a dit tout simplement, moi, je veux pas souffrir. Et du coup, effectivement, cet artisan chirurgien, il est obligé d'inventer un outil, mais un outil qui est peut-être là avant tout pour rassurer le roi. C'est-à-dire, il y a peut-être un petit effet placebo. Sous-entendu, avec ce système hors norme, parce que ça n'avait jamais été expérimenté et réalisé, sire, vous allez être opéré très rapidement, et vous allez voir, ça va très très bien se passer. Effectivement, le roi a accepté, même s'il a gardé le secret sur la date de l'opération. Même son propre frère, n'a pas été mis au courant, ce qui était quand même un peu paradoxal.
Cette opération, on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais a été un peu l'opération du siècle. Dans votre livre, on apprend que des royalistes à la période de la Restauration avaient une théorie selon laquelle cette fistule aurait dessiné les prémices de la Révolution française. Mais pourquoi cet événement et cette opération aurait eu un tel retentissement ?
Alors là, c'est un débat historiographique qui est complexe. Disons que on a considéré en fait qu'à partir de l'opération, il y avait un avant et un après. C'est-à-dire le roi ensuite était beaucoup plus sujet à des maladies, à des migraines, il était devenu mélancolique, triste, il vivait mal, on va dire, sa cinquantaine, sa soixantaine, etc. Et qu'il aurait pris des décisions assez catastrophiques, en fait, pour la France. Quelque part, certains ont dit, à partir de cette opération, Louis XIV a gouverné peut-être avec moins de sagesse. Et s'est échafaudé, en fait, sous la Restauration, une théorie sur laquelle 100 ans, on va dire, avant la Révolution, cette opération et finalement aussi la longévité de ce roi qui peut-être avait régné trop longtemps, s'est avérée désastreuse pour l'évolution politique, entre guillemets, de la France.
C'est intéressant. Merci beaucoup, Stanis Pérez, d'être venu avec nous sur ce roi du bistouri qui en a sauvé un autre, le roi Soleil, et a donné ses lettres de noblesse à la chirurgie. Je rappelle vos deux derniers ouvrages pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus sur le sujet. Le corps de la reine et le corps du roi, tous les deux parus aux éditions Perrin dans l'excellente collection Tempus. Et puisqu'on parlait BD tout à l'heure, je mentionne aussi qu'une bande dessinée qui illustre cet épisode célèbre de l'histoire de France paraîtra dans quelques jours, Le Royal Fondement, la face cachée du Roi Soleil, signé Philippe Charlot et Eric Hübsch aux éditions Grand Angle. Merci beaucoup Stanis Pérez, merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Kessel-Lopez et Olivier Pouls, on réunit des rois du bistouri. Après Ambroise Paré et Charles-François Tassy, vous nous racontez, Jean-Luc, un roi du bistouri aussi. Mais alors lui, il est autoproclamé. Et ça fait toute la différence.
Alors si je vous dis chirurgien esthétique, Stéphane,
oui,
vous allez penser au beau gosse de la série américaine Nip Tuck. Je sais pas si vous suiviez ça.
Ah, il y a longtemps.
Oui, c'était ça.
Il était beau gosse, je me souviens plus.
Les deux, ils étaient deux chirurgiens. Oui. Ils étaient beau gosse, mais oubliez. Oubliez tout ça. Oui. Parce que, avec son allure de Mr. Magoo, sa moumoute improbable et ses éternels Ray-Ban fumés, Michel Mort est tout sauf esthétique. Mais ça tombe bien, car il n'est pas chirurgien non plus. Il est médecin généraliste et anesthésiste réanimateur. Et pourtant, il a pratiqué des milliers d'opérations de chirurgie esthétique en toute tranquillité.
Allô ? Non mais allô quoi ?
Oui, comment est-ce possible ? Tout simplement parce que les diplômes, c'est pour les tocards. Hein ?
Ah bon ?
Michel, il lui suffit de voir une opération une fois pour s'en souvenir parfaitement et la refaire dans la foulée. Il dit que c'est un don et s'autoproclame au passage meilleur chirurgien du monde. Il y a au moins 97 anciens patients qui ne sont pas du tout du même avis que lui et qui l'ont poursuivi en justice en 2008. Michel est né en 1951 en Algérie. Il fait médecine et devient anesthésiste réanimateur à Marseille en 78. Mais il s'ennuie car son rêve absolu, c'est de devenir chirurgien. C'est quand même plus classe. On fait tomber toutes les filles et surtout on gagne beaucoup d'argent. On a un projet qui lui plaît bien. Michel aimerait bien utiliser son don de l'observation pour autre chose que gagner au memory. Mais en attendant de trouver la combine pour tenir un scalpel, il crée des maisons de retraite, achète des participations dans des petites cliniques et devient même gérant d'une concession automobile. Bon, tous ces établissements ferment au milieu des années 90. Les cliniques, pour problème de non-conformité, et la maison de retraite parce qu'elle aurait fait passer Orpea pour les compagnons d'Emmaüs. Il écope au passage de 2 ans de prison avec sursis. Mais il en faut plus pour abattre notre anesthésiste. Profitant du flou juridique autour de la chirurgie esthétique, qui lui permet à cette époque de pratiquer avec comme seule compétence une mémoire photographique, il va investir une de ses cliniques désaffectées à Marseille. Tel le docteur Jekyll de la Canebière, il s'installe dans la clinique Saint-Bernard et invente, bien avant la Tunisie, le concept de chirurgie esthétique low cost, avec des prix 50% moins chers que partout ailleurs. Avec la promesse d'un climat de sécurité absolue et d'équipes médico-chirurgicales hautement qualifiées, c'est vraiment le rêve à portée de bistouri. Forcément, la clientèle afflue, mais la réalité n'a pas grand-chose à voir avec les pubs parues dans Marseille Boom Boom et... Et les patients ressortent aussi choqués que quand ils ont entendu Stéphane leur raconter la conquête spatiale.
Buzz Aldrin n'a pas fait que célébrer une messe. C'est aussi le premier qui a fait pipi sur la Lune.
Si, il a fait ça, Stéphane Baird, je l'assure. Le cabinet est vétuste. La salle d'opération ressemble à une vieille cuisine avec des tomates rouges. Et on vous demande juste d'enlever le haut ou le bas suivant l'intervention. Quant à l'équipe chirurgicale top niveau, vous vous souvenez de ce film avec Eddie Murphy qui joue tous les personnages d'une même famille?
Ouais. Ah, la famille... Doolittle.
Ah, quelque chose comme ça, ouais.
Oui, c'est ça, oui.
Et ben là, c'est pareil. Il est juste assisté d'une aide-soignante payée au black qui fait le ménage ensuite. Et les méthodes ultra-modernes, alors? Bah, il promet une chirurgie douce. Douce? Comme si on nous faisait des chatouillis avec du duvet de canard? Non, non, pas vraiment. Sauf si c'est un canard qui joue dans Massacre à la tronçonneuse. Douce chez Michel Mort, ça veut dire juste sans anesthésie générale. Car officiellement, Mort trouve ça dangereux. Bon, c'est plutôt dommage, car c'est la seule chose qu'il sait vraiment faire. Mais en réalité, comme il n'a pas le droit d'ouvrir autre chose qu'un cabinet, il ne peut faire que des anesthésies locales. Alors, les âmes sensibles peuvent se boucher les oreilles pour le bien des autres. Je vais accompagner ce qui suit d'une petite musique relaxante. Les patients, à peine anesthésiés au Valium, voient tout et souffrent le martyre. Ils sentent les coupures, les doigts sous la pose des implants et les sutures. L'avantage, c'est que s'ils sont aussi observateurs que Michel Mort, ils pourront à leur tour se lancer dans la chirurgie esthétique. Il leur assure qu'ils peuvent conduire juste après, mais on ne sait pas combien de temps ils mettent, ni s'ils arrivent vraiment chez eux. Quant au résultat, on est sur du Picasso, mais période cubiste. Il y en a une qui a le sein droit qui se durcit, et le sein gauche qui se dégonfle. Une autre qui retrouve sa prothèse sous son bras, et une troisième dont il a déplacé la bosse sur le nez. Et pour finir avec les cicatrices, même les momies égyptiennes étaient mieux recousues. Oui, sur le TripAdvisor des cliniques de chirurgie esthétique, Michel Mort n'a que des commentaires déplorables et pourtant, les patients continuent de venir. Alors, pourquoi ?
Voir le docteur.
Bah, déjà parce que ses tarifs sont compétitifs et qu'il attire les gens qui n'ont ni les moyens ni l'habitude de ce genre d'intervention. Ouais. Et puis Mort est rassurant avec tous ses nombreux diplômes accrochés au mur. Diplômes attribués par des sociétés qu'il a créées lui-même. Ah, il est très malin. Lorsqu'on s'inquiète de l'insalubrité des locaux, il répond qu'il est en train de faire des travaux pour monter un des plus grands centres de chirurgie esthétique de France. Il a vraiment réponse à tout. Mais ça se complique en 2003 avec une plainte suivie d'une perquisition accablante. Matériel rouillé, médicaments périmés, produits stockés au frigidaire entre du coca et des yaourts. C'est un tel capharnaüm que même les souris n'y retrouvent pas leurs petits. S'en suivront 2 procès. Un en 2008 pour mise en danger de la vie d'autrui, blessure involontaire, travail illégal et tromperie aggravée, et un en 2012 pour exercice illégal de la médecine. Quand il est à la barre et qu'on lui parle de douleur, il dit que c'est très relatif. Bah, c'est sûr, hein, si on considère que les premières prothèses mammaires de 1930 étaient des boules de verre ou du cartilage de bœuf, elles font vraiment les douillettes. Il déclare que les plaignants ne sont que des mauvais payeurs. Les soi-disant 15 000 autres patients sont satisfaits. Mais il veut pas les ennuyer pour venir témoigner. Très très pudique, Michel Mort. Malgré cette défense hilarante, il est condamné en 2008 à 4 ans de prison, dont une avec sursis, et en 2012 à 6 mois ferme. 10 000 euros d'amende et interdiction d'exercer toute profession médicale. Interdiction qui contournera certainement un jour. D'ailleurs, je ne serais pas surpris qu'il ait pratiqué sur ses co-détenus 2 ou 3 rhinoplasties avec des petites cuillères piquées à la cantine.
Ah non, j'espère pas. Merci beaucoup Jean-Luc. Mais c'est pas cher payé, dites donc.
Ah non, je trouve qu'il s'en sort très très bien.
Il
a quand même mutilé 97 personnes.
Oui, je trouve que, et en tout cas, sa défense hilarante, bah, ça a dû faire rire.
Écoutez,
ils ont été très indulgents.
Ouais.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos rois du bistouri pour retrouver 2 rois du stylo bic avec lequel ils écrivent leur chronique. David Cassé-Lopez, vous nous racontez les origines de l'éponge.
Ouais.
Ouais, ouais. Il y a plein de trucs à dire sur les ponts, comme si on s'en rend pas compte. Ouais.
On s'en rend pas compte comme ça. Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui, on parle cuisine avec vous, Olivier Pouls. Ça s'est passé dans le passé, on remonte en 1840 pour découvrir les premières cantines scolaires. Bon, et les traumatismes qui vont avec.
Oui. Les amis, est-ce que vous étiez plutôt comme ça, vous?
Je vais faire manger à la cantine avec mes copains et mes copines.
Alors vous, les amis, est-ce que vous étiez externe ou demi-pensionnaire?
Externe, je rentrais chez moi, moi.
Les deux, moi. Moi, les deux aussi.
Vous mangez deux fois, quoi.
Non, c'est pas ça, mais c'est vrai que j'avais la chance de vivre à côté du collège et à un moment, je me suis dit, j'aimerais bien être avec mes potes, quand même.
Mmh.
Oui, c'est ça.
C'était le dilemme.
Parce qu'il se passait des trucs pendant la cantine, on revenait après-midi, on disait, putain, j'ai raté toutes les blagues et c'était chiant, ça.
C'est
ça.
Mais nous, justement, mes parents voulaient éviter qu'on entende les gros mots qui se disaient à la cantine.
Vous avez appelé le mot merde, d'ailleurs, à l'âge de 17 ans et demi, c'est ça, en fait?
Non, très tard, bien après. Et ça veut dire quoi?
Qui ne se souvient pas de ces haricots verts bouillis, des choux de Bruxelles amers, des betteraves au goût de terre, ou de la langue de bœuf à la texture en plastique, hein? Alors, ces plats qui ont traumatisé des générations d'écoliers, servis à la cantine, la fameuse cantine scolaire, triste symbole de repas peu ragoûtant. Et pourtant, vous qui avez pu y accéder, vous êtes bien chanceux. Car manger un repas équilibré dans le cadre de la scolarité n'a pas, et loin de là, été le quotidien de nombreuses générations d'écoliers. Alors c'est au début du 19e siècle que la loi impose la création d'écoles dans les communes françaises. On y apprend à lire, écrire et compter, mais rien n'a été prévu pour nourrir les enfants qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Alors souvent le maître qui se dévoue et prépare un frichti avec ce que les enfants ont apporté, du lard, du pain, des œufs. Mais à Paris, dans les années 1840, la ville procède à des distributions alimentaires pour les élèves. Et en 1885, naissent les premières caisses des écoles qui financent ces repas pour les enfants issus de familles pauvres. On ne parle pas encore de cantine scolaire. Dans les campagnes, en revanche, c'est un peu la règle de la débrouille qui prévaut.
Jules Ferry, qui rend l'instruction gratuite, obligatoire et laïque en 1880, n'a pas pensé qu'il fallait nourrir les élèves qui étaient obligatoirement à l'école.
Eh bien, figurez-vous que non, pas en un premier temps. Chaque école doit se débrouiller et on imagine bien qu'il y a de fortes disparités, essentiellement entre les villes et les campagnes. Paris, une fois encore, est en pointe. On y recense près de 400 cantines scolaires dès 1889. Elles sont financées par des dons et des bonnes œuvres, mais ailleurs, pas grand-chose, voire rien du tout. Et il faudra attendre 1936, Léon Blum et le Front Populaire, pour qu'une loi impose la construction d'une cantine dans chaque école. On les surnomme les hangars à manger. Ces réfectoires permettent aux élèves de consommer le plus souvent ce qu'ils ont apporté. Très peu de communes fournissent de la nourriture et elles ne bénéficient surtout d'aucune aide de l'État. Alors de nombreux médecins tirent la sonnette d'alarme, dénoncent la malnutrition dont sont victimes ces milliers d'enfants, car leurs parents n'ont tout simplement pas les moyens de mettre un repas digne de ce nom dans leur cartable.
Et aucun dirigeant politique ne mesure l'ampleur de la gravité du problème.
Pas vraiment, il faudra attendre Pierre Mendès-France, président du Conseil sous la 4e République, et lui va introduire une série de réformes contre la malnutrition. Il va aider les collectivités locales. En 1954, un verre de lait sucré est distribué à chaque enfant. Alors il s'agit de lutter contre certaines carences, mais aussi, tenez-vous bien, de faire baisser la consommation de vin. Car oui, jusqu'en 1956, du vin, du pinard, du cidre ou de la bière sont servis aux élèves à la cantine, un demi-litre par jour et par élève. Le vin a réputation d'être bon pour la santé, de stimuler la croissance, de renforcer les défenses. Bah, c'est hallucinant. Hein.
Bah, cela dit, vous avez vu, il y a de meilleurs résultats au certificat.
Ouais, ils écrivaient mieux d'ailleurs. Alors il faudra ensuite attendre 1971 pour que l'éducation nationale rédige sa première circulaire sur l'alimentation de l'écolier et jette les bases de la diététique scolaire, si on peut dire. Alors aujourd'hui, de nombreux chantiers sont en cours, circuit court, bio, produits de saison, etc., etc. Alors toi, le jeune qui nous écoute, lorsque tu te trouveras demain devant ton assiette de lentilles baignant dans leur jus de cuisson, lorsque tu dégusteras ton steak haché dur comme une semelle, dis-toi que tu as bien de la chance, car certes, tu n'as pas de vin, mais des générations d'écoliers avant toi auraient été bien contents de partager ton repas. Et puis surtout, regarde, il reste une danette en dessert.
Mais oui. Vous savez, les desserts, c'était toujours une nourriture industrielle de bonne qualité.
Oui, il fallait se dépêcher d'aller vite les prendre, parce que ça disparaissait
Très
vite.
Oui,
merci beaucoup, Olivier, mes aïeux. Quelle époque ?
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines avec Jean-Luc Lemoine, Olivier Pouls, mais surtout avec vous, David Castel-Lopez.
L'éponge.
Voilà un objet sur lequel on s'émerveille pas assez. Vous vous rendez compte que si vous versez de l'eau dans une assiette et que vous posez une éponge sur la petite flaque que vous avez créée, eh bien l'eau de la flaque remonte dans l'éponge. Elle va du bas vers le haut, comme s'il n'y avait pas de gravité. C'est comme si brusquement les cours d'eau remontaient les vallées, comme si les chutes du Niagara s'élançaient vers le ciel et non pas vers la terre. C'est ouf ! Non ?
Calme-toi, bon. Calme-toi.
Alors on m'avait expliqué il y a longtemps déjà que si l'eau remontait dans l'éponge, c'était à cause d'un phénomène physique qu'on appelle la capillarité. Alors pour cette chronique, j'ai essayé de comprendre le mécanisme de la capillarité. J'ai échoué complètement, je suis désolé, mais vous aviez qu'à embaucher un chroniqueur plus intelligent. Les éponges qui peuplent nos cuisines et parfois nos salles de bain, ce sont celles-ci des éponges fabriquées par l'homme, généralement à partir de pâtes de bois. Mais ces éponges, elles sont récentes. Elles ont probablement été inventées d'ailleurs par Spontex, hein, cette marque qu'on connaît tous, il y a moins de 100 ans, en 1932. Parce que bien sûr, avant ça, les seules éponges disponibles depuis les débuts de l'histoire de l'humanité, c'était les éponges naturelles. Éponges qui sont ces animaux jaunâtres, ces animaux jaunâtres qui vivent au fond de la mer. Et c'est pas n'importe quels animaux, puisqu'on a démontré récemment que ce sont les plus anciens de tous les animaux présents sur la Terre. 890 millions d'années. Et je sais pas vous, mais moi ça m'émeut un peu de savoir que nous tous, autour de cette table, nous sommes des descendants des éponges. Une descendance qui se voit peut-être davantage sur certains visages que sur d'autres, mais en tout cas, une descendance émerveillante. Les éponges, on s'en servait déjà dans la plus haute antiquité. Les Crétois, ils les utilisaient déjà pour peindre les murs de façon fun, il y a 4000 ans. C'était déjà probablement moche à l'époque, mais ils le faisaient. Dans l'Iliade et l'Odyssée, on s'en servait déjà pour faire le ménage, mais aussi pour boire. Grâce à cette propriété magique des éponges, à retenir les liquides à l'intérieur d'elles-mêmes, que j'ai décrite au début de cette chronique. Il y a une scène assez célèbre où quelqu'un boit avec une éponge, et je suis sûr qu'en tant que personne cultivée, vous savez.
C'est quoi, c'est dans un film ?
Non, c'est dans une histoire vraiment très très connue.
Ah bah c'est dans la Bible.
C'est dans la Bible, exactement. Dans la Passion du Christ. Il y a un moment où le Christ est sur la croix crucifié, pas bien.
Et on lui donne de l'eau comme ça, on lui quelques gouttes comme ça pour
Il y a quelqu'un qui met une éponge au bout d'un bâton, qui la trempe dans une sorte de boisson de l'époque dégueulasse qui s'appelait la Posca à base de vinaigre et qui lui appuie sur la gueule pour qu'il se désaltère un petit peu. Ça n'a pas suffi, hein, bien sûr, puisque Jésus, par la suite, est décédé.
Oui, mais pas de soif.
Il est pas décédé de soif. Il est vous savez, quand on est crucifié, on meurt asphyxié quand même. C'est-à-dire que c'est pas le. Bon, on va pas s'attarder sur la crucifixion. C'est donc un des épisodes de la Passion du Christ. Cette éponge du Christ, elle est tellement classe qu'elle a un nom. C'est la Sainte Éponge. Il y a plein de gens dans l'histoire qui ont dit qu'ils l'avaient trouvée, hein, comme une relique, un petit peu comme le bois de la croix ou l'éponge qui mérite d'être mentionnée. C'est l'éponge fixée au bout d'un bâton que les Romains utilisaient pour nettoyer leur cucu après être allé aux toilettes. Éponge, je suis désolé de vous le dire, qui était réutilisable et réutilisée. C'est ignoble, c'est dégueulasse.
Mais ça se nettoie.
Mais c'est pas ma faute. Ouais, on l'a trempé dans un seau de vinaigre entre deux utilisations, c'était pas.
Mais c'était brillant. Réutilisé quand même toujours pour la même fonction, rassurez-moi.
Et pour la même personne, souvent.
On l'avait pas la vaisselle avec.
Oui, voilà. D'accord. Donc vous, ça vous pose pas de problème de réutiliser des éponges qui ont été utilisées pour
bio.
Ça. Mais vous êtes hyper ouvert d'esprit. C'est super bien. Moi, je trouve ça dégueulasse. Mais je suis peut-être un petit peu hygiéniste. C'est mon problème. Alors il me reste à vous livrer un fun fact de très bonne qualité. L'éponge, accessoire roi de la propreté ménagère. Aujourd'hui, dans nos cuisines, elle est en fait généralement l'objet le plus sale que l'on trouve dans la maison.
Des nids à micro-ondes.
Les éponges sont couvertes de bactéries. Elles sont beaucoup plus sales que la cuvette des toilettes. Et pourtant, on nettoie pas ces casseroles avec l'eau des toilettes. Il y a jusqu'à 54 milliards de bactéries par centimètre cube sur une éponge ménagère. D'ailleurs, les éponges sont interdites dans les blocs opératoires des hôpitaux. Précisément pour cette raison. Mais alors, comment faire pour que vos éponges soient moins sales? Deux méthodes. Soit vous pouvez les mettre au lave-vaisselle avec un programme bien chaud, méthode efficace mais pas très fun. Il y a une méthode beaucoup plus fun que ça qui consiste à les tremper dans l'eau puis à les mettre au micro-ondes pendant une minute. Et à Skip, ça peut paraître, on peut même faire ça avec les éponges des Romains là qui se mettaient sur le cucu. Si vous faites ça dans le dans le micro-ondes, ça tue toutes les bactéries.
Mais les Romains n'avaient pas de micro-ondes.
Beaucoup moins de micro-ondes que nous.
Et alors, Bob, c'était... vous en avez pas parlé.
J'ai pas parlé de Bob l'éponge, oui, c'est qui personnifie une éponge, c'est vrai.
Exactement. Ouais, ouais. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui croient en leur sœur comme... Personne. Le poète et diplomate Paul Claudel qui a cru en sa sœur plus que beaucoup n'ont pu le croire. Puis la danseuse Isadora Duncan qui a mis ses pas de danse dans ceux de sa sœur qu'elle a admirée, Elizabeth Duncan. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez une chanteuse qui croit en sa sœur comme personne et qui chante qu'elle croit en sa sœur aussi, puisqu'on vient de l'entendre, hein, c'est l'extraordinaire, la formidable, la merveilleuse Clara Luciani.
Oh, n'en faites pas trop. Oui, Clara Luciani croit en sa sœur autant qu'elle croit en vous, Stéphane. Oui. C'est dire le niveau. Je vous raconte la jolie histoire de ces deux sœurs demain.
À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.